est 13h à Yaoundé, c'est l'heure du JDM, le journal de dimanche et midi, une présentation de Sylvain Yaman. Bonjour Sylvain.
Bonjour Constanze. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal de dimanche midi de ce 1er septembre 2024 sur la CIR TV, les titres. Les cloches de l'école sonnent dans une semaine exactement. Élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire vont renouer avec le chemin de l'école après une trêve de 3 mois. Préparatif de la rentrée scolaire 2024, c'est le branle-bas dans les agences de voyage et dans les marchés. Reportage à suivre dans le JDM. En sport basketball, les U18 entrent en compétition ce dimanche à Pretoria en Afrique du Sud. C'est dans le cadre des 17e et 22e éditions des tournois Dames et Messieurs Afro-Basket. Madame, Monsieur, bienvenue aux nouvelles. L'école reprend au Cameroun dans une semaine exactement. À l'approche de la rentrée scolaire, les agences de voyage de la ville de Yaoundé connaissent une agitation particulière. Entre achat des billets et dernières réservations, l'ambiance dans les agences de voyage, c'est un reportage de Juleka Omaru à Liou.
L'ambiance est paisible dans les agences de voyage, un calme surprenant pour la période pré-rentrée.
C'est encore presque mort, on ne voit pas grand-chose pour le moment. C'est un peu pénible parce que quand on attend souvent un mouvement qui fait en sorte que le transporteur essaye de sourire, c'est bizarre.
Le personnel de Jusa Voyage qui organise les derniers détails des voyages à venir.
Actuellement, nous ne portons que des commerçants. Nous sommes en train de mettre notre parking à jour, réviser toutes les voitures, réviser les pneus des véhicules.
À Bukavu Voyage, les usagers viennent encore chercher une dernière destination avant la reprise des classes.
Je suis en train d'aller à une réunion familiale puisque le grand-père ne veut pas être seul et mais mes enfants sont encore au village.
Je suis en train d'aller à Douala chercher les enfants. L'école, c'est pas demain. Je pense que nous avons encore toute une semaine. Dans tous les cas, on va se battre.
À une semaine donc de la reprise effective des classes, l'on observe encore une timidité dans plusieurs agences de voyage de la cité capitale. Les parents attendent la dernière minute pour accompagner les enfants. Question de rallier leur destination d'études respectives.
À Maroua, dans l'extrême nord, les agences de voyage connaissent aussi une affluence particulière en cette veille de rentrée scolaire. En ligne de Maroua, Adamo Moussa de CIR TV Extrême Nord.
Des klaxons qui retentissent à répétition dans les agences de voyage. Difficile de se frayer une piste dans une foule de passagers. C'est l'ambiance quotidienne enregistrée en cette veille de rentrée dans ce lieu. Les élèves qui veulent rallier les différentes localités sont alignés en file indien devant les guichets.
Nous sommes depuis le matin pour aller à Douala. Les billets sont rares, la réservation est quasi impossible. Il y a beaucoup de gens.
Depuis 2 heures, nous sommes là. Il n'y a pas de bus qui va à Kousséri. C'est pas facile. Il y a tellement de passagers.
Pour avoir les billets, il faut vraiment passer par quelqu'un. Tu peux faire 3 jours.
Les services d'enregistrement sont débordés ces 2 derniers jours.
Il y a l'affluence. Compte tenu de la rentrée, on enregistre ceux de Kaélé, Yagoua, Guidigis. Il y a tellement l'affluence.
La demande est forte et impose aux responsables des agences de voyage des réajustements pour la gestion de ce flux. Omar Bouba et Hamadou Moumini.
Nous avons nos véhicules confort qui vont de toute heure, chaque heure il y a un départ.
La société a mis des bus en bon état pour pouvoir desservir les passagers qui vont rallier leurs différentes localités.
Les passagers qui embarquent n'ont qu'un seul souci, arriver à destination. Maroua, Adamou Moussa, CIR TV.
Rendons-nous dans les marchés. Entre les points de vente des fournitures scolaires, les secteurs de l'alimentation et ceux du vestimentaire, c'est une atmosphère d'un autre genre. Notre reporter Priska Njeng Mongolo a fait un tour au marché Mokola Yaoundé, son reportage.
Embouteillage, difficulté à se déplacer, ça grouille de monde. Nous sommes au marché Mokolo. Sur un étal de 400 mètres, les fournitures scolaires s'exposent à la vue des potentiels acheteurs. Justin, commerçant, se frottent les mains.
Chaque rentrée scolaire, moi, je vends toujours les cahiers. Je suis en servir le client qui a fait prendre les fournitures scolaires de son enfant. Ça passe sur le marché.
Un peu plus loin, dans le secteur du déballage, Joël Marchand confie que les affaires peinent à décoller pour lui.
C'est difficile, c'est pas facile. Mais là, les rentrées sont venues aggraver la situation. Les gens disent qu'ils pas les habits pendant les rentrées.
Scénario identique dans le secteur de la volaille. Junior, fournisseur et détaillant révèlent que la pénurie affecte les préparatifs de la rentrée scolaire.
Quand il y a qui a pénurie, vous savez que c'est un énorme handicap. S'il y a manque de poulet, automatiquement il va y avoir manque d'achat. S'il y a manque d'achat, automatiquement il n'y aura même pas déjà l'argent pour payer la pension, pour payer les cahiers.
À quelques jours de la reprise des cours, ça se bouscule dans les marchés et les commerçants aspirent à de meilleurs chiffres d'affaires.
Deuxième étape ce jour de la remise des kits scolaires et appui financier aux élèves et étudiants de la Soupoule Mbounou, l'une des quatre soupoules de cette quatrième édition du championnat de vacances Concorde et Paix de Batouri. Le maire de Batouri au Berlin, Dabdou Mbélessa, qui était hier sur l'axe Batouri-Kenzou pour le même exercice, se rend aujourd'hui sur l'axe Batouri-Ndélélé. Objectif, aider les élèves à reprendre l'école sereinement. Bourse d'excellence académique, la commune d'Ayos sous la houlette du maire Paul Dongobikor soutient les lauréats au baccalauréat 2024, toutes séries confondues. Cela part des appuis, d'où l'urgence pour ces lauréats de se faire enregistrer auprès du secrétariat de la mairie d'Ayos tous les jours ouvrables. Le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorindongo, porte à la connaissance des candidats désireux de prendre part au test de sélection pour l'admission à l'école pour la formation de spécialistes de la faune de Garoua, session août-août 2024, que la date limite de recevabilité des dossiers initialement prévue le 30 août 2024 est reporté au mercredi 16 septembre 2024 à 15h30. Les audiences publiques relatives à l'exploitation du rapport de l'étude de l'impact environnemental et social du projet d'exploitation du fer de Ngoyan se déroulent dans les mairies de Kribi Premier, Lolodorf et Bipindi dès demain 2 septembre et ce jusqu'au 7 septembre 2024. Et ce sera dans les chefferies. C'est la quintessence d'un communiqué du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du développement durable. Et les pierres, vous écoutez la CRTV, vous écoutez le JDM. Confession religieuse et promotion de la culture de la paix au Cameroun. C'est le livre de 206 pages que vient de commettre le docteur Jean-René Aoumou, préfacé par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Ce livre aborde des questions relatives à la promotion de la culture de la paix et interpelle les confessions religieuses quant à leur rôle dans cet environnement en proie à de multiples crises au Cameroun et en Afrique. Le commissaire divisionnaire à la retraite Samuel Misumba repose au caveau familial de Bonawa à Loum, dans le Mungo, région du littoral. L'un des pionniers de la police camerounaise, décédé le 29 mai dernier, est élevé à la dignité de commandeur de l'ordre du mérite camerounais à titre posthume. Les obsèques se sont déroulées en présence du secrétaire général de la délégation générale de la Sûreté nationale, représentant le délégué général de la Sûreté nationale. Reportage Ibrahim Mohamed Abassi.
Le commissaire divisionnaire à la retraite, Samuel Misumba, retourne vers ses ancêtres et plonge, camarades d'armes, famille, amis et connaissances, dans la douleur et la consternation. Un père de famille affable et généreux qui a toujours privilégié l'intérêt général. Eric Essouzi Misumba, enfant du défunt.
C'est quelqu'un de rigoureux.
Un père de famille qui aimait aider lorsqu'il venait à la maison. On ne pouvait pas savoir qu'il était un policier.
Dans son oraison funèbre, le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale reconnaît et salue les qualités humaines et professionnelles de l'un des pionniers de la police camerounaise qui a servi pendant 33 ans avec honneur et fidélité. Dominique Baya, représentant du DGSN.
Un travailleur consciencieux, rigoureux, discipliné et digne, qui avait un grand sens de l'État.
Au nom du chef de l'État, le lauréat du tout premier concours des commissaires camerounais en 1959, directeur de l'École nationale supérieure de police en 1974 et patron du CNR en 1986, est élevé à la dignité de commandeur de l'ordre du mérite camerounais à titre posthume par le préfet du département du Mungo, Yves Bertrand Diana, symbole de reconnaissance d'une mission accomplie sur terre.
En sport, basketball, les 17e et 22e éditions des tournois Afro-Basket U18 Dames et Messieurs démarrent aujourd'hui à Pretoria, en Afrique du Sud. Le groupe A ouvre la compétition chez les Dames. Le Cameroun affronte la Tunisie. Le match a lieu à 14h30, heure locale. Les Lyonceaux de basketball des moins de 18 ans, quant à eux, entrent en scène mardi prochain contre la Côte d'Ivoire. Et puis, Coupe du Monde de football U20 Dames en Colombie. Le Cameroun sécurise sa participation d'entrée de jeu. Les Lyons U20 ont fait match nul hier soir face au Mexique, leur adversaire. C'était le JDM. Dimanche midi se poursuit sous la conduite de Constanze. Madame, monsieur, bon dimanche et bonne semaine à venir.
Merci Sylvain Yaman. Bon dimanche.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Morisienne Buinan Chabanan Siki, Sikim Tori Apollo Samba, Sikim Tori Apollo Monyan.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Dimanche midi.
Morisienne Buinan Chabanan Siki, Morisienne Buinan Chabanan Siki, Sikim Tori Apollo Nyamba.
Conversation avec mon voisin, capture des faits de société sous forme d'éphémérides.
Une administration dont quasiment toutes les correspondances, les notes et les décisions circulent sur les réseaux sociaux est une organisation dont on peut raisonnablement douter du sérieux. Nos deux voisins en sont même venus à se poser des questions sur le niveau d'irresponsabilité de certains fonctionnaires. La querelle entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT est une illustration de ce que la confidentialité et le respect du droit de réserve n'existent plus au Cameroun. Voici Conversation avec mon voisin, une chronique de Valérie Dikosumaro.
Il y a quelque chose de complètement changé dans l'administration camerounaise. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, nous avons visiblement décidé de travailler dans la rue. Toutes les correspondances, même les plus inimaginables, circulent sur la toile. Ces derniers temps, c'est quasiment à la minute que les missives sont dévoilées. Des alertes sont sonnées, régulièrement sonnées, pour mettre en garde contre cette dérive digne d'une administration sans contrôle, preuve d'une pléthore d'agents publics irresponsables, amateurs et sans éthique. Des gens qui n'ont jamais entendu parler du devoir de réserve, qui ne savent pas ce que confidentialité veut dire. Visiblement, personne ne leur a dit que dans l'administration, toutes les informations ne sont pas à mettre à la portée de tout le monde. Toutes les informations ne sont pas destinées à tout le monde. Mais au Cameroun, parfois le destinataire d'une correspondance la découvre sur les réseaux sociaux. Le peuple est devenu spectateur d'une gestion sur la place publique des affaires de l'État. Nous voilà informés de choses qui nous font perdre le sommeil, même si elles ne nous concernent pas toujours. C'est bien de réserve et de confidentialité que me parle mon voisin lundi. Mon cher voisin, le ministère des Sports et la Fédération de football se livrent une bataille sans merci à l'occasion du match Cameroun-Namibie à propos du stade qui doit abriter la rencontre. Les correspondances pleuvent tous les jours. Nous suivons la bataille en comptant les points. Chacun d'entre nous donne son point de vue et parce que la bataille est publique, nous ajoutons notre grain de sel à la radicalisation des positions puisque personne ne veut perdre la face. Et mon voisin de conclure, la meilleure façon de ne pas résoudre un problème, c'est de le porter sur la place publique. Mardi, mon voisin est complètement perdu. Avant, les choses étaient simples. Il y avait des garçons et il y avait des filles. Aujourd'hui, on ne sait plus. Dans un formulaire de demande de visa, dans la partie réservée au sexe, on peut désormais choisir entre masculin, féminin ou autre. Autre, ça peut être n'importe quoi. Et on dit que ça correspond au monde d'aujourd'hui. Un monde où une femme est peut-être un ancien homme et vice-versa. Au milieu de tout ça, il y aurait ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre. Une fois de plus, mon cher voisin, je renonce à comprendre. Mercredi, cette question du genre décidément perturbe mon voisin qui ne sait plus reconnaître un sportif masculin ou féminin. Même les organisateurs de compétitions sportives ne sont pas loin de demander aux compétiteurs de se mettre nus pour faire la différence. Moi, je les trouve bien prétentieux parce que même là, il n'y a aucune garantie. Jeudi, avec mon voisin, je suis triste. 6 membres d'une même famille sont morts après avoir consommé un couscous fait avec du maïs traité aux pesticides. Comment ce maïs, qui était destiné à la plantation, s'est retrouvé à la portée des mangeurs? Nous avons un sérieux problème avec la manipulation des produits dangereux. Nous démontrons tous les jours, dans quasiment tous les domaines, que la sécurité est le cadet de nos soucis. Vendredi, mon voisin m'apprend que l'alcoolisme fait 74 000 morts par an au Cameroun, surtout chez les jeunes. Sans avoir mené une enquête, mon voisin est persuadé qu'il y aurait moins de morts si on buvait moins d'alcool frelaté. Je suis obligé de vous avouer, toute honte bue, que nous tenons cette discussion autour d'une bière bien fraîche. Votre semaine a sans doute été meilleure que la nôtre. À dimanche prochain.
Dimanche midi, le dossier de la rédaction.
Ce dimanche, nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire 2024 au Cameroun. Les préparatifs dans les lycées et collèges s'intensifient pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Alors que les vacances tirent déjà à leur fin, l'effervescence est palpable. Enseignants, parents et élèves sont dans les derniers réglages et dernières courses pour une reprise des classes de qualité. Tatiana Ebodo a fait le tour de quelques établissements de la ville de Yaoundé. Voici son reportage dans dimanche midi.
Bonjour madame.
D'accord.
Nous sommes au collège Jean Tabi. Les couloirs, habituellement calmes depuis quelques mois, sont aujourd'hui animés par les allées et venues des professeurs qui se préparent à accueillir les élèves dans quelques jours. Les enseignants, comme le docteur Angoula, animateur pédagogique de français, nous parlent de leur reprise pour cette nouvelle année scolaire.
En cas des anciens, c'est au 19. On a commencé directement par un séminaire de renforcement des capacités, donc de voir les méthodes d'enseignement avec le processus de digitalisation aussi. Et puis, avec des facilitateurs en fonction des départements qui étaient les inspecteurs nationaux. Le séminaire fait 3 jours. On a une séance où on revoit les programmes, quelles sont les innovations qui ont été apportées par la hiérarchie, comment on peut implémenter sur le terrain. Après, on a eu des rencontres de la hiérarchie avec les animateurs. Toutes ces réunions-là nous mettent prêts le premier jour. Et c'est pour ça qu'à Jean Tabi, quand on va dire la rentrée, c'est le 9. Effectivement, il y aura cours le 9.
De l'autre côté de la ville, au collège Saint-Benoît, c'est le même enthousiasme. Les parents s'affairent dans les librairies et les magasins de fournitures scolaires pour compléter les listes de rentrée. Madame Ekane Yolande, mère de 3 enfants, en est au dernier réglage de cette rentrée scolaire.
Je suis en train d'acheter déjà les sacs parce que j'ai fini avec la tenue, la première tranche, les inscriptions. Maintenant, ce sont les sacs. J'ai fini aussi avec les chaussures. J'ai commencé en janvier. Vu que le dernier, chaque jour, me demande que maman, c'est comment, je ne pars pas à l'école, pourquoi. Les 2 autres, ils ont fait les cours de vacances. Lui-même, il est impatient.
Pour d'autres parents d'élèves comme Sandrine Bilou, la rentrée scolaire se prépare dès la fin d'une année scolaire.
On essaie de faire de notre mieux. C'est vrai que la rentrée scolaire se prépare en avance. Bon, déjà pour mes enfants, on a préparé notre rentrée scolaire à l'avance. tout ce qu'on a à faire maintenant sont juste les derniers réglages. Inscription, tenue de classe, chaussures et autres.
Bien sûr, la rentrée ne serait pas complète sans la participation des élèves eux-mêmes. Nous avons pu discuter avec quelques lycéens qui sont déjà impatients de retrouver leurs amis et de découvrir leurs nouveaux enseignants.
Pour la rentrée scolaire, je suis déjà prête mentalement. On essaie de se préparer maintenant pour ne pas être surpris pendant l'année scolaire.
Mon secret cette année pour réussir, c'est beaucoup apprendre parce que vraiment l'an passé, j'ai plus passé le temps à dormir vu que j'étais pas en classe d'examen. Et maintenant, comme je n'ai pas en classe d'examen, je dois vraiment prendre au sérieux mon année scolaire.
Entre excitation, préparation et un peu d'appréhension, chacun se prépare à sa manière pour cette nouvelle année académique.
Et dans les zones d'éducation prioritaire comme la Damawa, l'accès à une éducation de qualité reste un défi majeur. Le taux de scolarisation de la jeune fille en particulier est l'un des plus faibles du pays. Face à cette situation, des campagnes de sensibilisation sont lancées par les pouvoirs publics, la société civile et les élites pour convaincre les parents sur l'importance de la scolarisation de leurs enfants, particulièrement leurs filles. Initiative compilée dans ce reportage de Abdoul Aziz Amadou de CRTV à Damawa.
La pression monte dans la région de la Damawa à une semaine de la rentrée scolaire. Dans plusieurs familles, les parents ont perdu le sommeil.
Je vois que la rentrée scolaire s'annonce mal parce que je n'ai pas assez de moyens pour la scolarité des enfants. Donc c'est difficile. Espérons que ça ira.
Moi j'ai 3 enfants. Je me suis préparé comme j'ai pu.
La pression monte.
Dans certaines zones rurales, les initiatives de sensibilisation se multiplient. Elles sont variées et souvent innovantes. À Galimtinger, par exemple, une association des parents d'élèves et enseignants a mis en place un projet de tutorat.
Je suis la présidente des parents d'élèves. Pour cette rentrée, j'ai organisé une réunion avec les parents des élèves pour leur parler de l'importance de scolariser les enfants et comment le faire.
L'élite locale ne lésine sur aucun moyen pour inciter les parents à envoyer les enfants en âge scolaire à l'école. À Mayo-Dinga, dans le département du Mayo-Bagno, des kits scolaires ont été remis récemment aux élèves et à leurs parents au cours d'une semaine d'activités culturelles et sportives. Pour la donatrice Aïssatou Abdoulkarimou, il ne s'agit pas seulement d'aider, mais de convaincre les parents que l'école est une chance et un levier essentiel pour leur avenir.
Apporter un petit pouce aux parents pour permettre à ces enfants d'entamer l'année scolaire comme tout le monde. Nous avons partagé à ces jeunes 250 kits scolaires. Nous mettons l'accent sur l'éducation, parce que sans éducation, nous ne pouvons rien faire. L'objectif, ce n'est pas de faire l'école pour travailler, c'est pour nous-mêmes, même dans le foyer, pour même lire et écrire, et nous mouvoir, être en santé. Donc j'exhorte les jeunes de Mayo-Dinga en particulier, d'aller à l'école, les filles comme garçons.
Les organisations de la société civile jouent un rôle clé dans ce processus. Elles servent de relais entre les parents et les écoles. Mounira Abdoulaye coordonne les activités d'une association.
Dans la région de la Damawa, le taux de scolarisation des garçons est de 75,4% et celui des filles est de 51,3%. Alors dans le cadre de notre association Wings of Hope, nous avons déjà eu à mener des activités dans le sens de l'éducation de la jeune fille. Nous sensibilisons les parents à envoyer les filles à l'école au lieu de les envoyer précocement en mariage. Nous sélectionnons les meilleurs ou nous finançons leurs études parfois sur 1 ou 2 ans.
Les médias locaux sont aussi mis à contribution.
Babirabe, enen parmen, winditen bibemen ha l'école.
Des émissions sont diffusées aussi bien en français qu'en langue locale dans les radios communautaires pour expliquer aux parents les bénéfices à long terme de l'éducation, notamment l'accès à de meilleures opportunités d'emploi et la rupture du cycle de la pauvreté. Eric Barbé de la FM Bagno.
Nous avons développé une émission Djombe Djouniaro. Nous passons par nos animateurs pour faire couler le message de la scolarisation. Nos messages, c'est d'encourager la jeune fille à être scolarisée, encourager la jeune fille à être autonome, dire aux parents que la jeune fille aussi peut porter la famille, parce que nous sommes dans un cadre où on pense que c'est l'homme qui porte la famille, la jeune fille elle aussi elle peut porter la famille. Et à travers cette émission de Djouni Djouniaro, on permet aux communautés d'appeler et ils peuvent donner leurs avis. Tout passe par la scolarisation. Les masses adhèrent, on discute des sujets par rapport à cela. Et de plus en plus, par rapport aux statistiques que nous avons des 400 existences de notre radio, nous pensons que nous apportons notre édifice à la scolarisation de la jeune fille dans le département du Mayo-Bagno.
Envoyer les enfants à l'école aujourd'hui leur assure une bonne insertion sociale dans le futur. Alors, inscrivons massivement nos enfants à l'école.
Toutes ces initiatives ont déjà permis une hausse notable des inscriptions scolaires dans plusieurs écoles primaires. Des résultats qui, de l'avis des experts en sciences de l'éducation, montrent qu'il est possible de changer les mentalités et d'ouvrir la voie à un avenir meilleur pour les enfants de la région de la Damawa, classée zone d'éducation prioritaire. Gaoundéré, Abdelaziz Amadou, pour Dimanche Midi.
Dimanche midi, l'invité de la rédaction.
Nous recevons ce dimanche, comme invité de Dimanche et midi, le professeur Laurent-Serge Etoundingwa, ministre de l'éducation de base. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue à Dimanche et midi.
Bonjour.
Dans quelques jours, et les élèves vont reprendre le chemin des classes, à l'éducation de base, où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs de ce grand moment de la vie nationale?
Je voudrais tout simplement dire que nous nous préparons sereinement. Nous avons fini avec les conférences de préparation des rentrées en organisant la rencontre des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base et en organisant aussi de manière parallèle la rencontre des services de l'enseignement privé de base. De ces deux rencontres, je peux dire que tout a été passé au pain fin pour que nous puissions voir étape par étape le processus qui sont dits préparatoires à la rentrée scolaire. Et nous avons fait le round-up de tous les problèmes qui sont souvent rencontrés. Pour l'instant, je peux dire que malgré l'afflux des nouveaux élèves qui rentrent dans le circuit, nous nous préparons sereinement et je peux également dire que, sauf surprise, nous serons prêts le jour de la rentrée.
Les élèves seront dans les salles de classe, les enseignants aussi. Est-ce que, monsieur le ministre, les enseignants vont aborder cette nouvelle année scolaire dans la sérénité, sur le plan financier, sur le plan pédagogique également?
Peut-être que je répondrai pas à leur place, mais je dirais qu'en ce qui concerne les administrations qui veillent sur ces choses-là, nous avons essayé de tout faire. Pour l'instant, nous n'avons pas de dette académique. Nous avons assaini la dette académique du ministère de l'Éducation de base. Nous sommes même allés jusqu'à faire des remboursements des trop perçus de ces dettes dans les régions, qui étaient de l'ordre de 600 millions les dernières années. On a remboursé cet argent aux écoles, aux structures régionales, parce que il faut comprendre que lors des préparatifs des examens, il y a un ensemble de frais qui sont perçus et qui doivent être utilisés pour. Et si on se rend compte qu'on a perçu et on n'a pas tout utilisé, il était de bon ton qu'on puisse remettre ça aux administrations sur le terrain qui en ont besoin. Nous avons fait ce remboursement. Cela veut dire que pour le moment, financièrement, nous ne sommes pas dans le gouffre. On essaie d'équilibrer les opérations pour que tout se passe sereinement.
Quel est l'objectif que vous fixez à vos collaborateurs des services centraux et déconcentrés pour cette année scolaire 2024-2025 qui va débuter bientôt?
Bien, vous savez que le poids d'une bonne année scolaire, c'est les résultats aux examens, c'est la sérénité dans les salles de classe, c'est la sérénité dans le mental des anciens. Et je pense que sur ces trois points, nous avons bien fait l'année qui vient de s'écouler. Nous pensons faire mieux l'année prochaine parce que nous pensons aussi qu'on s'est mieux préparé.
Un des combats, monsieur le ministre, que vous entendez encore mener au cours de cette année, c'est le combat contre les effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Vous voulez 60 élèves au primaire, 50 au secondaire. Comment est-ce que vous allez vous assurer que ces quotas sont respectés dans les salles de classe?
Bien, naturellement, nous avons deux problèmes. Le premier problème est l'engorgement des écoles dans les villes, un phénomène qui est lié à la migration des populations pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la croissance démographique au Cameroun hein, et l'encadrement infrastructurel ne peut pas suivre cet accroissement démographique. Vous connaissez la situation économique de nos pays, le Cameroun n'y échappe pas. Nous ne pouvons pas à l'instant construire plus de salles de classe qu'il en faut. Et il viendra donc à la fin le problème d'avoir des effectifs modèles, comme on a parlé de 50 élèves par classe ou 60 élèves par classe. La deuxième raison, c'est la situation sociopolitique du pays. Vous connaissez la situation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui est en train de se normaliser progressivement, mais les gens ont encore le réflexe de la peur. Ce qui fait que la plupart des enfants sont convoyés vers les écoles des centres les mieux protégés sur le plan sécuritaire. Cela produit un engorgement qui fait que le problème du sureffectif est un problème qui est constamment délocalisé. Or, nous avons reçu du chef de l'État l'ordre de ne laisser aucun enfant issu de ces situations-là hors de l'école. Nous serons obligés de surcharger dans certains centres, comme dans l'Ouest, le littoral, et certaines régions du centre, et même du Sud, où on a été obligé de surcharger les salles de classe pour que tous nos jeunes concitoyens puissent avoir accès à l'éducation. Mais sinon, parallèlement à tout ce que j'ai dit, nous devons reconnaître que nous avons fait beaucoup de progrès en termes de construction de salles de classe ces 5 dernières années. Et je remercie la coopération internationale qui nous aide beaucoup, les ONG. Tous les jours, nous avons des demandes et pratiquement tous les 3 mois, nous inaugurons de nouvelles salles de classe, sans compter l'effort sans doute croissant fait par le gouvernement qui a donné aux maires la latitude de construire les salles de classe dans leur commune en leur déléguant des crédits. Et je pense que le problème de sureffectif va donc être relatif.
Vous avez fait allusion aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sont en crise en ce moment. Quel message est-ce que vous adressez à la communauté éducative de ces deux régions, Monsieur le Ministre?
Je voudrais d'abord féliciter nos collaborateurs de ces régions. On dit que dans la vie, quand vous avez un troupeau, il y a quand même quelques brebis galeuses. Lorsque ces situations ont commencé, nous avons eu une espèce d'exode et des enseignants et des élèves. Et des parents. Il était normal qu'à cette période-là, les mentalités fussent véritablement polyvergentes. Et au jour d'aujourd'hui, la sérénité est revenue progressivement. Des mesures ont été prises par l'État quant aux enseignants qui ont massivement déserté. Non seulement les salles de classe, parfois le pays. Je dis chapeau au ministre des Finances, qui nous a aidés en ce sens, parce que on ne peut pas continuer à payer des gens qui ne sont pas là des années durant, sans savoir qu'il y a un sacrifice à assumer pour la situation qui prévaut. Et à cet effet, cet argent qui servait à payer des gens qui sont partis, et sont des milliers aujourd'hui, permet de payer les nouveaux qui arrivent, permet au Cameroun de recruter à travers ses amis de la coopération, et apprendre à assumer ses salaires une fois que les modules des accords de coopération sont issus. Je prends un exemple simple. Nous recrutons 3000 enseignants chaque année. Depuis 5 ans, nous sommes à 15 000 par le touchement d'un projet de la Banque mondiale. Mais une fois qu'ils sont recrutés, la Banque mondiale paye pendant un an tous les salaires des recrutés. Et l'officier solde de l'État les prend en charge progressivement. Je pense que nous sommes en train progressivement de normaliser la situation et nous souhaitons qu'il en soit ainsi avec la bonne volonté de nos compatriotes.
Vous avez rappelé il y a une dizaine de jours, Monsieur le Ministre, à vos délégués régionaux le respect scrupuleux de vos instructions sur l'interdiction pour les chefs d'établissement de s'immiscer dans la gestion et la collecte des frais d'APE. Monsieur le Ministre, pourquoi ce rappel en ce moment?
Mais je voudrais dire, et ça regarde l'éducation nationale en général, que ce soit les enseignements secondaires ou l'éducation de base. L'UNESCO connaît l'existence des frais d'association de parents d'élèves. Je voudrais d'ailleurs dire que le financement de l'éducation, tel qu'il est défini par les Nations Unies, montre qu'il y a 3 acteurs. Le gouvernement, les familles et les partenaires au développement. Le gouvernement fait sa part, les partenaires au développement font leur part et les familles doivent faire leur part. Mais cela ne veut pas dire qu'on bafoue la gratuité. Ce que les familles font est quelque chose de consenti par elles. Et le meilleur cadre pour le faire, c'est l'association des parents d'élèves. Maintenant, pourquoi est-ce que le ministre a fait le rappel? Parce que les associations de parents là, sont bien réglementées. Il y a un bureau qu'on appelle le bureau de l'APE. Et les personnes les plus imminentes là-dedans sont le président de l'APE, qui est donc le gestionnaire. Il a avec lui un secrétaire général, il a avec lui un trésorier, il a avec lui les commissaires aux comptes. Je n'ai pas cité un chef d'établissement quand je parle là. Et la règle pour gérer vaut quoi? L'établissement a des besoins. Ce bureau doit venir à l'établissement demander quels sont les besoins urgents de l'établissement. Et à ce moment-là, le président ordonne à son trésorier de sortir de l'argent. Il paye ce qu'il y a à payer et ils viennent fournir à l'école. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On délaisse l'argent à la portée soit du directeur d'école, soit du proviseur, soit je ne sais pas quoi. Non, ça ne doit pas être fait comme ça si nous respectons l'équité de la bonne gouvernance.
Un des défis que vous allez encore élever cette année, c'est l'instabilité des personnels enseignants dans les zones d'éducation prioritaire. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie que vous entendez mettre sur pied pour stabiliser les enseignants dans ces zones?
Voilà un problème qui nous appelle. Ce problème a deux volets. Ces volets sont liés à la vocation. Mais je suppose que vous avez une vocation de journaliste. Vous êtes allé parce que vous aimez ce métier. Chez les enseignants, il y a des gens qui sont allés parce qu'ils aimaient le métier. Alors, si on vient donc aux zones prioritaires, on doit d'abord être quelqu'un qui aime son pays. Pour partager l'idéal commun qui est qu'on doit être éduqué partout où on se trouve dans notre pays. Mais qui ira faire ça? Qui ira faire ça? C'est les Camerounais. Ils doivent partir dans ces zones sans appréhension. Ils vont avoir des difficultés. Le rôle de l'État est d'essayer d'alléger ces difficultés au cours du temps. Parce que bon, on ne peut pas le faire. Les zones d'éducation prioritaire aujourd'hui, on en avait quatre. Les trois régions septentrionales. Ensuite, la région de l'Est, où nous savons qu'il y a beaucoup de populations dites autochtones. Les zones prioritaires ont ces spécificités. Les enseignants qu'on y envoie font du sacerdoce. Il faut donc des enseignants par vocation pour y aller. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons mis des avantages assez spécifiques pour ces gens-là. Et même si on ne peut pas dire qu'on est généralisé complètement, il y a avec l'aide de nos partenaires des primes spéciales, des primes d'éloignement. Il y a beaucoup de choses que nous faisons avec, par exemple, la Banque mondiale, qui donne vraiment des avantages financiers particuliers aux gens qui y sont chaque année. Donc, je demande aux Camerounais qui sont envoyés dans ces zones d'y aller avec un esprit patriotique, d'être indulgent et de travailler et œuvrer pour le meilleur. L'État améliore les situations.
Professeur Laurent-Serge Etoudingwa, ministre de l'Éducation de base, c'était un plaisir de vous avoir en dimanche midi.
Ça a été également un grand plaisir pour moi de parler à ces populations qui vont jalonner les routes des écoles et qui iront remplir nos salles de classe dès lundi prochain.
Dimanche midi, la balade dominicale.
Allons à présent dans les forêts du sud, au village de Mahanmezam. C'est pour découvrir un palais royal. Cet édifice, construit il y a plus d'un siècle, se dresse majestueusement comme un témoin du génie architectural de ses bâtisseurs. Ce joyau historique, encore méconnu du grand public, révèle une histoire riche en traditions et en savoir-faire locaux. Une immersion dans le patrimoine du canton Eboman, c'est à la découverte du palais royal centenaire de Mahanmezam. Un reportage d'Anissé Sestéressiane de CRTV Sud.
À l'ombre des vastes forêts du sud Cameroun, à une vingtaine de kilomètres des boulevards, se trouve Mahanmezam, l'un des 15 villages que compte le groupement Ebomam 2, un canton qui a à sa tête Sa Majesté Florette Maltide Abatu, chef de deuxième degré.
C'était d'abord un seul groupement. En 1979, on a scindé en deux. C'est un groupement Ebomam 1, du côté de
jusqu'à au moment 2, donc jusqu'à Nkolando.
La particularité de notre zone, c'est d'abord le nom Ebomam.
Ambulu, ça signifie là où on fait les affaires, mam, les choses. On dit souvent Ebomam, Vomba Bomam, c'est-à-dire là où on réalise les affaires, les projets. Et puis nous avons dans notre groupement deux sites touristiques. Nous avons Nkolando, il y a aussi Akoka. Nous avons de grandes personnalités. Il y a un ministre d'État, maire, préfet, conseillers régionaux, il y a des commissaires divisionnaires.
Ici, le temps semble s'être arrêté devant un trésor d'architecture et de tradition. Le palais royal du canton Ebomam 2. Cet édifice construit il y a plus d'un siècle est un chef-d'œuvre d'ingénierie locale. Véritable témoin du génie des ancêtres qui ont su tirer parti des richesses de leur environnement et de leur rencontre avec l'Occident. Majesté Florette Maltit Abatu.
En effet, mon grand-père, qui était un homme dynamique, avait quelquefois rendu visite aux missionnaires des Lattes, missionnaires américains. C'est là qu'il remarque ces constructions originales, des lattes faites de bois et sur pilotis. Il s'est dit, moi aussi, je devrais avoir un palais de cette nature. C'est ainsi qu'il se rapproche de deux Américains, Mr. Hope et Mr. Tung, et il leur fait part de son projet. Ces derniers, très surpris, ils ont accepté l'accompagner. Il fallait donc se mettre à l'œuvre. Ces deux Américains assistés d'un ouvrier local qu'on appelait Obamongo Obene. Il était du village Ntumba. Ils ont donc mis ensemble ce projet et exécuté le plan de mon grand-père. Les travaux ont commencé en 1930 et se sont achevés en 1933.
Les pilotis, soigneusement taillés et érigés, soulèvent fièrement la structure au-dessus du sol, la protégeant ainsi de l'humidité et des aléas climatiques. Le côté visionnaire de cet ancêtre a abouti à la création de cet édifice qui, encore aujourd'hui, suscite l'admiration de tous ceux qui foulent le sol de Manmezama. Lors de notre visite dans ce beau village, nous avons eu la chance de croiser un jeune architecte fasciné par la robustesse et la beauté de ce palais. Islam Fabrice Nkomekoto n'a pas manqué de partager avec nous son émerveillement.
C'est un bâtiment qui est forte d'admiration dans le cadre de l'architecture culturelle où nous nous trouvons, bâti sur des poteaux. C'est vrai que ce n'est pas l'expertise moderne telle que nous voyons aujourd'hui. Nous pensons que autant, n'est-ce pas, de nos aïeux, il y avait les uns et les autres qui avaient de la matière grise, qui pouvaient, n'est-ce pas, faire des grandes choses.
Pour la famille royale et les habitants du canton Ebomam 2, ce palais est bien plus qu'un simple bâtiment. Sa Majesté Florette Maltit Abatu évoque ici avec émotion les restaurations successives.
En 2006, quand on m'intronisait, j'ai dû changer tout le bas parce que les poteaux étaient déjà en train de se ronger et on a dû prendre des criques de forestiers pour soutenir la maison un peu et puis maintenant remplacer les 40 poteaux.
Pour maintenir cette maison dans les prochaines années, pour ne pas dire les 100 autres années, il faut seulement qu'il y ait constamment des révisions en termes techniques pour savoir si les matériaux qui y sont répondent encore en ce qui concerne la durabilité. Le confort nécessaire pour, n'est-ce pas, recevoir les charges de la superstructure.
Ce palais reste pour nous un élément qui nous est très cher et nous y sommes très attachés parce qu'il nous rappelle toutes les histoires que nous y avons vécues. Avec papa, il était toujours perché sur le balcon d'une voix imposante. C'est pour nous un symbole d'unité, un symbole de rassemblement, un symbole de pouvoir. Ces murs que vous voyez de l'extérieur ont d'autres murs à l'intérieur. Ces murs sont doublés partout, c'est presque insonorisé.
En parcourant le balcon, salon et chambre de ce palais centenaire, le visiteur ne peut qu'être frappé par la force tranquille qui émane de ces murs de bois, témoin silencieux d'une histoire riche et vivante. Et disons-le tout de suite, le palais royal de Manmezama est bien plus qu'un vestige du passé. Il est le garant d'un héritage précieux, ce lien indéfectible entre les générations passées, présentes et futures des populations des Bomam. Manmezama, Anissé Sesterician pour Dimanche Midi.
Vous écoutez Dimanche Midi sur l'ensemble du réseau radio de la CRTV.
Une plateforme pour justifier l'origine de son cacao et de son café mis sur le marché, c'est la nouvelle donne dans le secteur. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café est entré en relation avec des exportateurs nationaux. C'est à travers un accord de mutualisation des données de géolocalisation des parcelles cacaoyères et caféières au Cameroun. De quoi s'agit-il? Voici les explications avec le directeur des opérations au CICC. L'entretien avec Sylvestre Essonome Sanga est mené par Charles Abosolo Oba.
Sylvestre Essonome Sanga, bonjour.
Bonjour, monsieur Abosolo.
Alors, vous avez signé il y a quelques jours seulement avec des exportateurs un accord de mutualisation des données de géolocalisation des parcelles cacaoyères et caféières au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cet accord?
Le contexte de cet accord, c'est le souci de mise en conformité des filières, notamment de la filière cacao, avec le nouveau règlement européen sur la déforestation. En effet, depuis le 30 juin 2023, l'Union européenne a adopté un règlement qui entre en application à compter, disons, du 1er janvier 2025. Ce règlement dit en substance que pour entrer dans l'Union européenne, le cacao doit être traçable. Il doit être zéro déforestation et il doit être légal.
Que faire donc? Comment allier la préservation des forêts et la culture du cacao?
Alors, que le cacao ne soit plus planté dans des forêts primaires. Les forêts primaires, c'est ce que nous appelons généralement les forêts vierges, ne soient plus plantées dans des forêts que l'État a consacrées, c'est-à-dire les réserves, ainsi de suite. Donc, ils veulent vraiment que le cacao soit planté dans des forêts, j'allais dire propres. Comment contrôler tout cela? La première exigence, dorénavant, ce sera la traçabilité. Vous devez indiquer où est produit le cacao que vous mettez sur le marché de l'Union européenne. Or, cette traçabilité demande que les parcelles cacaoyères aient été géolocalisées, c'est-à-dire qu'on ait déterminé le lieu où ces parcelles se situent, évidemment avec leur surface.
Qu'est-ce que le petit producteur gagne derrière tout ça?
Le petit producteur
des géolocalisations, est-ce que cet accord est bénéfique
dorénavant,
pour le producteur cameroun?
Dorénavant, au moment où vous vendez votre cacao, on va vous demander si votre plantation a été géolocalisée. Habituellement, vous voyez, les gens viennent au village, ils achètent, ils ne vous demandent rien, ils veulent le cacao. Maintenant, ils veulent acheter en mettant un nom sur ce cacao, c'est-à-dire votre nom, vous producteur, et cette précision, ma plantation est géolocalisée. Parce que si votre plantation n'est pas géolocalisée et qu'on mélange votre cacao dans un lot où on voit l'origine du cacao, tout le lot va être déclassé parce qu'il y a dedans du cacao dont on ne trouve pas l'origine. Donc, le petit producteur, pour qu'il reste dans le marché, pour qu'on continue d'acheter son cacao, a besoin que sa plantation soit géolocalisée.
Alors, vous êtes un ancien du domaine. Est-ce que vous connaissez le phénomène des coxeurs?
Effectivement, nous...
Et est-ce que les coxeurs aussi, qui vont dans nos villages, vont avoir cette exigence? Comment suivre ces données de géolocalisation?
Vous savez, les coxeurs, parlons-en, les coxeurs n'exportent pas le cacao. Ils achètent pour venir livrer à quelqu'un qui, lui, vend aux exportateurs ou alors aux exportateurs eux-mêmes.
Comment l'exportateur, tracer donc ce
s'il vous plaît,
cacao?
L'exportateur.
Comment tracer ce cacao qui vient des coxeurs?
L'exportateur qui, lui, a cette obligation de tracer avant d'envoyer à son client européen, ne pourra plus acheter le cacao des coxeurs. C'est une obligation pour lui. Or, s'il ne peut pas tracer ce cacao, il va l'acheter pour en faire quoi? Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire, indirectement, les coxeurs sont appelés à disparaître, à moins qu'ils apportent, au moment de livrer à leurs clients de Yaoundé ou de Douala, et la liste des producteurs et les éléments de géolocalisation.
Et qu'est-ce qu'il faut
vous donner un autre
pour géolocaliser en termes de matériel? Qu'est-ce qu'il faut?
Il y a des équipes, par exemple, pour la géolocalisation du CCC. Nous avons contractualisé avec un cabinet d'expertise dans ce domaine. Et on leur donne les listes, on leur indique les lieux, ils vont, ils rencontrent les autorités administratives, les chefs de village, les producteurs eux-mêmes, on leur explique les enjeux. Beaucoup sont déjà imprégnés de ces enjeux.
Sylvestre Essonome Sanga, directeur des opérations du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, merci d'avoir répondu aux questions de Dimanche Midi.
Merci à vous, monsieur Abessoul, merci à la CRTV.
Dimanche Midi.
Dimanche Midi.
Dimanche Midi.
Les Camerounais ont manifesté cette année préélectorale un enthousiasme débordant pendant les opérations d'inscription sur les listes électorales. Ces inscriptions se sont achevées samedi 31 août, comme le stipule la loi électorale. L'engouement traduit le désir des uns et des autres de participer aux élections de 2025. C'est la synthèse de ces avis. Ces avis sont compilés dans la chronique politique de dimanche midi. Ibrahim Mohamed Abassi.
Antenne communale d'Elections Cameroun de Yaoundé Premier. Quelques heures avant la clôture des opérations de révision des listes électorales de l'année 2024, les Camerounais en âge de voter se bousculent. Tous ont un même objectif. S'inscrire sur la liste électorale.
Je me suis déjà fait inscrire sur la liste électorale. Il y a de cela 2 semaines déjà. Je ne voulais pas au début, mais vers la fin, je me suis dit qu'il est important pour moi, jeune Camerounaise, de participer au développement de son pays dès le départ à travers les élections présidentielles en 2025.
Je me suis fait inscrire lundi dernier.
Je me suis inscrit hier avec des longues files d'attente. Il a fallu être patient avant d'être reçu. On attend le jeudi maintenant pour aller aux urnes.
Je me suis inscrit à la dernière minute vu qu'il y a beaucoup de Camerounais qui prennent attention à ce processus électoral.
Le même engouement est observé depuis le 4 janvier dans les différents démembrements territoriaux de l'ECAM à travers le Cameroun. Hommes, femmes, jeunes et personnes vivant avec un handicap se sont présentés dans les locaux d'Elections Cameroun afin d'obtenir une carte d'électeur. Pièce qui donne accès au bureau de vote.
C'est d'abord un devoir patriotique. Quand on est Camerounais, on a d'abord ce devoir-là d'être inscrit pour voter. Je peux déjà réfléchir en tant qu'un homme choisi ce qui est bien.
C'est un devoir en tant que Camerounaise et jeune Camerounaise de passer aux élections de son pays.
En 2025, c'est prononcé déjà. On pense qu'on va aller aux urnes et puis on va décider. Le résultat va parler de lui-même.
En cette année 2024, année préélectorale, les Camerounais ont manifesté leur volonté d'accomplir le moment venu, leur devoir civique, volonté accompagnée par des initiatives politiques et citoyennes. Albert Ateba Onguene, acteur de la société civile.
Nous avons mené plusieurs démarches pour récupérer nos CNI et nous avons même facilité certains jeunes de notre quartier à s'inscrire avec les photocopies des récépissés. C'est une affaire nationale et personne ne devrait être laissé à la traîne. C'est une responsabilité. La démocratie se veut participative et avec une grande majorité de jeunes aujourd'hui en âge de vote, il est vraiment temps que nous puissions y participer. Levons-nous pour cela parce que l'avenir c'est pour nous et personne ne le fera à notre place.
Et l'ECAM a refermé ses registres. Place maintenant aux opérations de toilettage qui commencent avec la transmission du procès verbal des commissions communales au niveau départemental. Document attendu au plus tard le 5 septembre. Des opérations rectificatives opérées. Ces responsables départementaux mettre les listes électorales provisoires avant le 10 novembre à la disposition des délégations régionales pour transmission à la direction générale avant le 10 décembre. À l'issue de ce toilettage, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre conformément au code électoral. Et en cette année 2024, Elections Cameroun ambitionne de présenter un fichier électoral avec environ 8 millions de Camerounais inscrits.
Dimanche midi, sport.
Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2024, le Cameroun rentre en scène samedi et mardi prochain contre la Namibie et le Zimbabwe pour le compte des 2 premières journées de la compétition. Les Lions Indomptables reprennent du service 3 mois après une éclatante victoire et un match nul respectivement contre le Cabo Verde et l'Angola. 2 prestations qui les placent logiquement en position de favori. Mais les sélectionneurs Marc Brice et ses poulains doivent se surpasser une fois encore pour rester indomptables. DM Sport, Fritz Bayamak. Bon après-midi, Fritz.
Bon après-midi, Constant.
Les Lions et Notables retrouvent le stade dès samedi prochain. Ce sera pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Face à Vincent Aboubakar et ses camarades, les Brave Warriors Namibiens, une équipe qui avait déjà tenu le Cameroun en échec à Yaoundé le 23 mars 2023. Trois jours plus tard, le 10 septembre à Kampala en Ouganda, Mac Brice et ses garçons seront prises avec les Warriors du Zimbabwe. Pour beaucoup, aucune inquiétude à se faire pour les Camerounais. Gabriel Zabo, entraîneur de football.
Au regard de la copie lors des deux derniers matchs contre le Cap Vert et en Angola, je peux dire tout de suite sans gros risque que nous avons de belles chances. Les Lions ont démontré contre le Cap Vert que nous étions trop productifs. Et en Angola, on a eu la possibilité de marquer beaucoup de buts. Dans le contenu, on a vu une belle équipe du Cameroun qui a été à la mesure du sujet et nous avons de belles chances de remporter les deux rencontres.
Les Camerounais ont encore en souvenir l'éclatante victoire contre le Cap Vert et le match nul contre Angola en juin dernier à Yaoundé et à Luanda en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Des performances qui, pour certains, devraient pousser le staff technique à maintenir ce groupe des Lions indomptables. Mais face à la Namibie et au Zimbabwe, le Cameroun peut encore faire mieux avec un groupe où on note le retour de Franck Magui et la première sélection de Brice Eno. Sébastien Tchambata, entraîneur de football.
Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Même dans des succès, on retrouve toujours beaucoup d'imperfections. Il faut plutôt se servir des rencontres précédentes pour construire une équipe conquérante. C'est vrai, j'ai vu beaucoup de volonté et d'intensité lors des matchs contre le Cap Vert. Si on y ajoute de l'application, un peu de justesse technique, d'adresse devant les buts, des transitions défensives rapides, les Lions feraient souffrir n'importe quelle équipe.
Namibie et Zimbabwe, des adversaires plus ou moins connus du Cameroun. Une revanche à prendre contre la Namibie et des victoires à perpétuer contre le Zimbabwe. Les Lions indomptables sont donnés largement favoris au vu du palmarès qui plaît dans leur faveur. Même si on dit qu'un match se dispute sur le terrain, le Cameroun ne devrait pas trembler. Alain-Georges Betty, président de l'Observatoire de gestion du football africain.
Tous les espoirs d'une prestation très honorable sont à mitre en avant. La Namibie impose un sursaut d'orgueil aux Lions indomptables à présent. D'autant que le match se discute à domicile quand au Zimbabwe. Cet adversaire de poids a presque toujours réussi aux Lions indomptables à cette étape de compétition. Tout clairement ouvert en vue d'une assez bonne prestation des Lions indomptables pour ces deux matchs à venir. Certes, la Namibie est plus connue parce qu'elle a rencontré le Cameroun il y a de cela un an à ce même niveau, pendant que le Zimbabwe, lui, purgeait une suspension de la FIFA.
Un groupe de 24 joueurs soudés, sensiblement le même que celui qui a disputé les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec les résultats qu'on sait. Un sélectionneur décidé à faire face à l'adversité avec des résultats sur le terrain. Mac Brice constitue la première arme du Cameroun les 7 et 10 septembre prochains. Gabriel Zabou.
Première arme, c'est le coach. Ensuite, les joueurs. D'abord, le coach, pourquoi? Parce que de par ses déclarations, il a confiance à son équipe, à ses joueurs. Il les trouve bien et il a rappelé sensiblement le même groupe. Il doit avoir déjà, n'est-ce pas, observé la Namibie et le Zimbabwe. Donc, il sait de quel côté est-ce qu'il prendrait l'adversaire, n'est-ce pas, de coup.
Mais Namibie et Zimbabwe ne vont pas se présenter en victimes résignées face au Cameroun, bien que bien loin dans les profondeurs du classement FIFA. Bref, Warriors et Warriors sont à prendre très au sérieux. Jean-Sébastien Tchambata, entraîneur de football.
La Namibie ou le Zimbabwe, c'est deux équipes qui essaient de se démarquer depuis quelques années. La Namibie, par exemple, est quand même une analyse malheureuse de la dernière Coupe de la COSAFA. C'est cette même équipe qui a accroché la Tunisie au mois de juin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc attention donc au complet de supériorité de nos Lions indomptables.
Le Cameroun dispose de tous les arguments pour réussir son départ dans cette phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Son groupe est déterminé à montrer que les derniers échecs n'ont été que des faux pas d'un parcours semé d'embûches. Le sélectionneur Mabus et sa troupe savent qu'ils sont attendus au tournant et que le moindre faux pas ne leur sera pas pardonné. Mais les Lions de toutes les générations ont toujours su faire face à l'adversité et faire prévaloir leur esprit indomptable. Très attendu encore les 7 et 10 septembre. Alain Betty, président de l'Observatoire de gestion du football africain.
Le Cameroun devra compter et jouer avec ses forces habituelles en se référant à ses deux dernières sorties quasiment réussies. Plus d'ardeur et d'efficacité ajoutée à l'esprit déjà en vigueur ferait davantage la bonne recette. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on améliore les faiblesses observées au cours des matchs antérieurs.
Cameroun-Namibie et Zimbabwe-Cameroun, les Lions indomptables sont attendus en tête du classement de leur groupe au soir du 10 septembre prochain. À dimanche. Dimanche midi, édition du 1er septembre 2024, entre en gare. Mise en onde de Désiré Melingui, Daniel Mamia, radio, assisté par ordinateur Aïcha Aïdjo, Elisabeth Hamann, réalisation post-production Yannick Ayama, Constanzi à la présentation. Dimanche midi, une coordination de Georges Quelon, Valérie Dikosumaro, directeur des rédactions radio, supervision Madeleine Sopi Koto, directeur central du pôle radio, supervision générale Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Vous pouvez réécouter cette édition cette nuit lorsqu'il sera à minuit 15 minutes ou sur internet à l'adresse www.crtv.cm. Mesdames, messieurs, merci pour votre aimable attention. Bon dimanche et à dimanche.